quel est le niveau de vie qui est requis d'un membre du royaume. Tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu marches avec Jésus, eh bien c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, c'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre, et c'est aux œuvres qu'on reconnaît le chrétien. Je suggère, et j'aime à donner comme titre de ce sermon, plaidoyer pour un christianisme cohérent. La cohérence, c'est le fait d'être en accord avec ce que je dis et ce que je fais. Au temps de Jésus, il y avait des théâtres, un peu comme on a aujourd'hui. Alors, il y avait des gens dans la vie de tous les jours, dans la vie normale, qui étaient, j'allais dire, fauchés comme les blés, et qui avaient du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois. Et puis, le temps de la représentation sur l'estrade, devant l'auditoire, ils incarnaient, sur les planches du théâtre, un personnage riche comme Crésus. Et on disait que c'était un to hypocritos, un hypocrite. À l'origine, ce terme d'hypocrite n'avait pas la connotation négative qu'il a aujourd'hui dans le langage courant. Et donc, un hypocrite, c'était un comédien, quelqu'un qui jouait la comédie, quelqu'un qui, le temps de la représentation sur les planches du théâtre, donnait à voir un personnage qui ne correspondait nullement à ce qu'il était dans la vie de tous les jours. Et on disait, c'est un hypocrite. Alors hier, on a parlé du profil du chrétien, les fameuses béatitudes, Matthieu 5, versets 3 à 12. Et Jésus a dépeint les qualités morales et spirituelles que l'on doit trouver dans la vie intérieure d'un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui sait pleurer sur ses péchés. C'est quelqu'un qui offre la grâce. C'est quelqu'un qui est doux. C'est quelqu'un qui est miséricordieux. C'est un artisan de paix qui construit des passerelles de réconciliation là où tant d'autres construisent des murs de séparation. Et c'est quelqu'un, nous dit Jésus, qui est prêt à être persécuté par amour pour le nom de Jésus. Quand on incarne un tel profil, pour Jésus, il n'y a pas photo, on ne peut qu'être que lumière du monde et celle de la terre. Et c'est ce qu'il a expliqué dans la section de Matthieu 5, versets 13 à 16. Et puis ensuite, nous avons réfléchi hier après-midi sur la grande section Matthieu 5, versets 18 à 48, où Jésus présente l'échelle de valeur d'un membre du royaume, le référentiel moral, éthique, sur lequel le membre du royaume doit aligner son comportement. Et au chapitre 6e, dans les versets 1 à 18, que nous allons survoler ce matin, Jésus va parler de la spiritualité du chrétien. Et il va nous dire que c'est une question d'authenticité. Une question d'authenticité. C'est quoi l'authenticité ? L'authenticité, c'est ce qui est conforme à une norme reconnue. Le contraire de l'authenticité, c'est la contrefaçon. La contrefaçon, bon, on sait tous que sur Internet, on peut trouver des montres qui, dans la vraie vie, valent... il faut travailler peut-être 6 mois pour s'offrir le bracelet. On peut les trouver à prix cassé, seulement il n'y a pas que le prix qui est cassé, il y a la qualité aussi. Et la contrefaçon, la contrefaçon, elle existe dans tous les domaines, y compris dans le domaine spirituel, dans le domaine religieux et à l'Église. Et Jésus va nous montrer en quoi consiste la véritable spiritualité, ce culte en esprit en vérité que le membre du royaume est censé offrir à Dieu. Et Jésus va contraster la véritable spiritualité avec la contrefaçon. Et va nous dire, les païens qui ne connaissent pas Jésus, ils pensent que la prière, ça se mesure au kilomètre. Ou alors, ça se mesure aux formules choisies. Et Jésus va dire, non, ne prenez pas pour modèle les païens, parce que c'est pas le bon modèle. Et puis, il va dénoncer un autre travers dans lequel il ne faut pas tomber, l'hypocrisie des gens religieux. Et au nez et à la barbe des scribes et des pharisiens hypocrites, Jésus va dire, la véritable spiritualité, c'est surtout pas celle que les représentants officiels de la religion institutionnelle vous donnent à voir, eux qui sont droits dans leurs bottes, mais qui ne se sont pas repentis de leurs péchés. Donc, nous allons voir comment Jésus nous présente la véritable spiritualité, la spiritualité authentique qui caractérise le membre du royaume, complètement différente de celle des païens, et qui n'a rien à voir avec l'hypocrisie religieuse des représentants de la religion. Alors, je remercie Bastien et Philippe qui font équipe avec moi ce matin. C'est un travail d'équipe. Et donc, je lis les versets 1 à 4 de Matthieu, chapitre 6, dans la version Bible du Semeur. Et Jésus dit, « Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes, pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi, dans les synagogues et dans les rues, pour que les autres chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors Jésus va prendre pour exemple les trois grands piliers de la piété juive, que sont l'aumône ou la libéralité, la prière et le jeûne. Et dans chacun de ces trois domaines, Jésus va montrer, va dénoncer la contrefaçon et il va montrer en quoi consiste la spiritualité authentique. Et au verset premier que nous avons lu, Jésus va montrer l'exigence d'authenticité spirituelle comme principe général qu'il va appliquer aux trois domaines que je viens de mentionner. Je relis le verset premier. Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu, sinon vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Alors c'est curieux parce que, si vous vous rappelez de ce que Jésus a dit au chapitre précédent, au chapitre 5, il a dit « Vous êtes lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, pratiquez vos bonnes œuvres pour que les païens puissent glorifier Dieu et qu'ils puissent remarquer vos bonnes œuvres et donner la gloire à Dieu. » Et ici, au chapitre 6, verset 1er, Jésus nous dit « Mais ne pratiquez pas vos bonnes œuvres pour être remarqués des autres. » Il y a une différence entre les deux et tout est dans la motivation. Nous avons dit hier que derrière nos pratiques, derrière notre spiritualité, notre piété, il y a une théologie. Et la question est de savoir pourquoi faisons-nous ce que nous faisons de la manière dont nous le faisons. Quelle est la théologie qui sous-tend la pratique? Et il faut vérifier cette théologie. Parfois, on, par habitude, par tradition, par culture d'église, on fait des choses, on ne s'est jamais trop posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on fait les choses de cette manière? Est-ce qu'il n'y a pas une autre... Moi, j'ai eu le privilège de voyager aux quatre coins de l'horizon, dans la francophonie, et ce qui m'émeut le plus, et les plus beaux souvenirs que je ramène des pays exotiques, non, ce n'est pas les coups de soleil, ce ne sont pas les bouteilles de rhum, ou ce que vous pouvez imaginer, c'est de voir l'Église de Jésus-Christ exprimer son amour pour le Seigneur dans sa culture. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit, quand ils se sont convertis dans les années 50, on leur a dit, dans l'église, on n'a pas le droit de prier en créole. J'ai rencontré des Bretons convertis dans les années 60 qui m'ont dit, au début, ceux qui nous ont annoncé l'évangile, nous ont dit dans l'église, on n'a pas le droit de prier en breton. C'est de l'impérialisme culturel. Parce que Dieu parle ma langue, et moi je peux vous dire, quand aux Antilles vous voyez les bien-aimés chanter en créole, ou en Afrique quand vous voyez les mamans qui apportent leur offrande en dansant, je peux vous dire qu'on se dit, waouh, ah ouais, il y a une autre, il n'y a pas que ma manière de faire les choses qui est la bonne. Et Dieu est grand, et souvent nous on est mono, Dieu il est stéréo, hein. Et il faut élargir notre spectre et notre vision des choses. Alors Jésus dit que le chrétien doit se faire remarquer par ses bonnes œuvres. On est le sel de la terre, on a dit hier que le sel, tant qu'il reste dans la salière, il ne sert à rien. Il faut secouer la salière pour qu'on puisse répandre son grain de sel. Mais répandre son grain de sel dans le bon sens du terme, nous sommes bien d'accord. Et Jésus dénonce ici le travers de l'hypocrisie. Vous vous rendez compte, dans le domaine de la libéralité, au temps de Jésus, il semble qu'il y avait des rabbins qui disaient, voilà, et alors il y a des gens qui faisaient leur prière en public, et vous savez, parfois, il y a des gens qui n'ont pas fait leur culte personnel et qui font leur culte personnel en public. Je crois que c'est l'évangéliste Moody, un jour, quand il y avait un frère dans l'église qui faisait une très longue prière, et Moody a dit, eh bien, pendant que notre frère termine sa prière, nous allons chanter au chant 544. Et donc, au temps de Jésus, il semble que, du haut de l'estrade, on pouvait dire, Monsieur Untel a mis tant dans la collecte. Et tous les regards se tournaient vers Monsieur Untel en disant, ben lui, c'est un bon, hein, c'est un vrai, un pur, un dur. J'étais invité à prêcher dans une église un jour, je ne vous dirai pas où, où le prédicateur, le président de culte, a dit, voilà, c'est maintenant le moment de la collecte. Eh bien, les frères qui veulent donner 250 euros au Seigneur, qu'ils s'approchent. On se serait cru dans une vente aux enchères. Et puis, il a baissé petit à petit. Bon, au bout de 20 euros, on ne remarquait plus qui s'avançait. Mais vous voyez un peu comment on avait dévoyé le sens de la spiritualité authentique. Et on était tombé dans la contrefaçon. Parce que la question qui tue, qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Alors vous savez, parfois dans l'église, alors moi je fais ceci, et on ajoute, c'est pour le Seigneur. Ok, d'accord, c'est pour le Seigneur. Maintenant la question qui tue, ce que tu fais pour le Seigneur, si personne d'autre le remarque, est-ce que tu continues de le faire pour le Seigneur? Et vous savez, si on faisait passer des IRM gratuitement et sans rendez-vous, à nombre de paroissiens, et peut-être moi le premier, je ne me désolidarise pas, on serait surpris de trouver des traces d'orgueil ou d'intérêt personnel, parce que il y a des gens qui ont des allures de grands philanthropes, et peut-être que c'est écrit Mère Teresa ici, et ils vous donnent l'impression que voilà, ce sont des beaux apôtres qui font le bien, mais ils prêchent pour la paroisse et ils vous font bien comprendre que je te fais ci, mais tu me rends ça. Et c'est un retour d'ascenseur, c'est un appel. J'ai lu l'histoire d'un récit que raconte Jean Savonarole, le célèbre prédicateur florentin. Il était étonné en entrant, pas lui, mais son collègue, jeune novice dans l'église catholique. Ils étaient entrés dans la cathédrale, je ne sais plus si c'était à Florence ou à Milan. Et il a vu une femme qui était prosternée devant la statue de la Vierge Marie. Et le novice de faire remarquer à son maître Savonarole, quelle piété, quelle dévotion. Et Savonarole a attendu la fin de la visite et a sorti de l'église. Il a dit, je vais t'expliquer. Cette dame que tu as vue prosternée à grands frais de religiosité devant cette statue, en réalité, voici l'histoire. Il y a une bonne quarantaine d'années, un sculpteur a cherché un modèle pour sculpter cette statue de la Vierge Marie. Et ce modèle qu'il a trouvé, eh bien, c'est cette femme que tu as vue prosternée devant sa statue une quarantaine d'années plus tard. Ben oui, ça avait remis les pendules à l'heure. Et Jésus dit, mais si tu donnes, t'as pas besoin de le mettre sur ton blog internet et de le claironner à tout va. Et il dit que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Autrement dit, discrétion absolue, motus et bouche cousue. Et la question est de savoir ce que je fais. Est-ce que c'est pour rechercher l'approbation des hommes ou est-ce que je recherche l'approbation de Dieu? Et ça, c'est la question qui tue. Et Jésus met le doigt là où ça fait mal. Et il dit, ceux qui recherchent l'approbation des hommes, eh bien, ils l'ont trouvé. Mais si tu recherches l'approbation de Dieu, ce que tu donnes, c'est entre toi et Dieu. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres, dans le domaine de la libéralité. Et ensuite, donc, Jésus va parler dans le domaine de la prière. Et on va lire les versets à partir du verset 5, les versets suivants. Voilà. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. Verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans ce lieu secret, te le rendra. J'allais dire, la messe est dite, hein. C'est clair. Il n'y a plus qu'à, hein. Verset suivant. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles, à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Moi, j'ai connu quelqu'un qui pensait que pour prier, il fallait faire des vers dans sa prière et s'adresser à Dieu. Il fallait avoir fait des études de littérature pour pouvoir prier. Il y a des gens qui pensent... Alors, au temps de Jésus, les rabbins enseignaient des formules liturgiques de prière. Bon, il ne faut pas cracher dans la soupe. Dans la liturgie, il y a du contenu. Parfois, nous, dans notre flou artistique évangéliquement incorrect, il y a beaucoup de superficialité, beaucoup d'improvisation, et parfois, ça manque de contenu. Bon, c'est toujours l'équilibre qui est dur à trouver. Mais les rabbins se préoccupaient d'enseigner des modèles de prière. Il y avait certaines postures qu'il fallait adopter, des formules à répéter de façon plus ou moins automatique pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Et Jésus va dire, non, c'est pas ça l'authenticité. Et Jésus va nous enseigner dans ce contexte-là, pour bien se démarquer de la conception païenne et de l'hypocrisie religieuse, c'est dans ce contexte-là où Jésus va nous enseigner le Notre Père. Et c'est là-dessus que j'aimerais m'arrêter. Je pense que c'est tout à fait de circonstance, parce que le Notre Père, c'est la Marseillaise évangélique. C'est le patrimoine génétique au plan spirituel commun qui nous rassemble. C'est le cri du cœur de tout membre du corps de Christ. Et les chrétiens ainsi que l'Église de tous les temps sont concernés par cette prière qui constitue en quelque sorte leur marque de fabrique, leur patrimoine commun, le signe de ralliement, et puis qui exprime ce qui est au fin fond de leur cœur, leur plus grand fardeau. Et il faut considérer cette prière comme appartenant au patrimoine mondial de la chrétienté, des membres des enfants de Dieu. Elle exprime la préoccupation essentielle du chrétien sur la terre comme son aspiration après les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et la bonne nouvelle, c'est que quand Jésus reviendra, quand nous serons dans sa présence, nous n'aurons plus besoin de prier le Notre Père. Parce que, une par une, reprenez toutes ces demandes, eh bien, elles seront parfaitement exaucées. Mais, dans cette attente, Jésus nous invite à prier le Notre Père. Une prière très sobre, très courte, d'une simplicité enfantine. Et ça tranche. Il y a des gens qui achètent des livres de prière et... vous savez, c'est un peu comme la philosophie, hein. Il y a des gens qui disent que oui, les philosophes, ils emploient des mots très compliqués, qu'eux-mêmes ne comprennent pas, pour nous faire comprendre que c'est nous qui n'avons pas compris. Bon, ça c'est... Mais le Notre Père, c'est une prière qui vient du cœur, extrêmement sobre, bien équilibrée, bien construite. Il y a une invocation de Notre Père qui est aux cieux, et 6 pétitions, 6 demandes, et puis une conclusion. Et ce qui frappe dans cette prière, c'est que la personne de Dieu constitue le pivot central, l'axe autour duquel toutes les demandes pivotent. La personne de Dieu, elle est au centre, notre Père qui est aux cieux. C'est pas... Alors, aujourd'hui, on est dans la génération des selfies. Vous visitez un musée, vous êtes devant la Mona Lisa, la Joconde. Vous avez fait la queue, hein. Vous voulez la prendre en photo. Il y a toujours des gens qui se mettent devant la Mona Lisa et qui se font prendre en photo par... Après, vous dites, mais c'est qui le chef-d'œuvre, au fait? Bon, autre question. Mais À l'ère du selfie, trop souvent, nous avons une vision des choses égocentrée. Moi, moi, moi. À l'ère consumériste en Occident, on considère trop souvent Dieu comme un prestataire de service. Dieu, tu dois faire ceci pour moi, tu dois faire cela pour moi, et c'est moi qui suis au centre. Ben dans le Notre Père, non, c'est la personne de Dieu qui occupe la place centrale. Notre Père, et ça se termine par la gloire du Père qui est recherchée. Donc, je l'ai dit, toute cette prière pivote autour de la personne et l'œuvre de Dieu. Cette prière du Notre Père transcende les limites de l'espace et du temps. Elle opère dans le registre de l'éternité qui concerne les requêtes relatives à la personne de Dieu, au verset 13 que nous allons lire. Et puis, elle parle des requêtes de l'être humain et ses besoins. Elle se soucie du passé, le pardon des péchés, du présent, le pain quotidien, et puis de l'avenir, la victoire sur le mal. Et puis cette prière se préoccupe de nos besoins personnels comme de ceux de notre prochain. Et au-delà de sa dimension individuelle et personnelle, elle a surtout et avant tout, nous allons le voir, une dimension sociale et communautaire. Le Notre Père, ce n'est pas la prière que je peux réciter tout seul dans ma salle de bain. Bien sûr, je peux le faire sous ma douche, mais c'est une prière communautaire, nous allons le voir. Et si vous faites une étude des religions comparées, vous ne trouverez nulle part ailleurs une telle dimension, une telle profondeur et une telle vision globale dans l'espace et dans le temps, où l'accent est mis sur notre relation verticale avec Dieu, mais sans négliger notre relation horizontale avec les frères et avec les sœurs. Et ça, c'est très important. Je l'ai dit hier, aujourd'hui, on observe dans le monde évangélique, en France comme en Europe occidentale, que trop de chrétiens qui se disent appartenir adhérer à la foi évangélique, se considèrent trop souvent comme des Robinson Crusoe, sur leur île, tout seul. Dieu, d'accord, Jésus, ok, la Bible, oui, mais l'Église, non merci. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Lettre ouverte à des chrétiens blessés » et malheureusement, dans l'Église, on rencontre des personnes qui ont été blessées pour toutes sortes de raisons. L'Église, qui est censée être un milieu où on offre la grâce, peut devenir un milieu blessant, qui laisse des blessures et des traces, des séquelles au bord du chemin, au bord de la route, et il faut recoller les morceaux. Cette prière commence par mentionner le Père qui vit dans les cieux et elle se termine avec le diable, l'instigateur du péché, pour récapituler l'histoire de l'humanité. Et le contraste est saisissant entre le statut de Dieu et celui de l'être humain. Si Dieu est autosuffisant, complètement indépendant, l'être humain est parfaitement dépendant. Et dans cette prière, il exprime sa dépendance. Jésus a bien dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et cette prière commence par l'affirmation de la grandeur de Dieu, toi qui es dans les cieux, et se termine par une doxologie qui célèbre la gloire de Dieu, comme quoi, je l'ai dit, la personne de Dieu constitue le point de départ et le point d'arrivée de toute cette prière. Alors nous allons en venir au fait. Priez donc ainsi, notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu. On va s'arrêter là pour l'instant. Il y a déjà de quoi faire. Alors, l'appellation de Dieu en qualité de Père n'était pas courante dans l'Ancien Testament. Et là encore, dans aucune autre religion, vous ne trouverez un tel degré d'intimité, de proximité avec la divinité. Il n'y a que dans l'Évangile que nous professons que nous pouvons nous approcher de Dieu au point de l'appeler Abba, Papa. Dans n'importe quelle culture, l'image du Père, déjà en tant que géniteur, elle est structurante, elle est indispensable, elle est nécessaire. Alors c'est vrai, tout dépend du type de relation qu'on a pu avoir avec notre Père. J'ai lu l'histoire d'un évangéliste dans les rues de Pakistan qui un jour il a rencontré un jeune qui s'appelait Steve, il avait 18 ans. Et il lui racontait son histoire. Tu vois, pasteur, moi, le plus beau jour de ma vie, c'est quand j'ai eu 18 ans. Parce que ce jour-là, j'ai appris que mon père et ma mère se sont tués dans un accident de voiture. Et tous les jours, il me disait que j'étais un bon à rien, un incapable, que je n'aurais jamais dû vivre sur la terre et que je les empêchais de vivre. Eh bien, tu vois, pasteur, pour moi, le plus beau jour de ma vie, c'est quand on m'a dit que mon père et ma mère se sont tués dans un accident de voiture. Waouh ! C'est du lourd, hein ? Et pour pouvoir dire ça, vous imaginez bien qu'il faut avoir encaissé et payé. Oui, il y a des pères fouettards, on va dire. Il y a des papas gâteaux à l'autre extrême. Et c'est vrai qu'en partie, l'image que l'on a de son père terrestre, on va l'imprimer sur l'image qu'on se fait de notre père céleste. Mais Dieu soit béni, c'est pas irréversible. J'ai rencontré une jeune femme, elle avait 33 ans, médecin. Elle m'a raconté son histoire. Quand elle avait 3 ans, ses parents ont mis une annonce dans le journal. Ils cherchaient à donner leur petite fille, ils n'en voulaient plus. Quand vous rencontrez une personne comme ça, vous voulez l'évangéliser, c'est du lourd. Hein. Mais Dieu soit béni, elle a découvert en Jésus et en Dieu une autre image référente de paternité, de maternité, et par la grâce de Dieu, elle a pu s'en sortir. La parabole du fils prodigue nous montre, on dit que c'est la parabole du fils prodigue, Luc 15, on devrait l'appeler la parabole du père rempli d'amour, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Un père, d'après Luc 15, c'est quelqu'un, alors que j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, et que j'ai fait tout pour ne plus mériter d'être aimé de mon père, eh bien mon père, il m'aime encore. Voilà. C'est la grâce. Et ça, la grâce, on peut se pincer, on peut pas banaliser. Moi, j'ai rencontré Jésus quand j'avais 15 ans. C'était en 1967. Bah vous, comme ça, vous saurez ma date de naissance. C'était la fin de l'année scolaire. Mes copains m'ont dit, il y a un cirque sur la place de la ville. J'habitais au centre de la France, Vendôme, entre Blois, Orléans, Tours. Mes copains m'ont dit, il y a un cirque sur la place de la ville. Je suis allé avec eux, c'est eux qui m'ont invité. Seulement, petit détail, quand on est arrivé, il y avait un chapiteau, mais on n'a pas vu des lions, ni des tigres, ni des éléphants. Et ça s'appelait la bonne nouvelle. Ah ! Quand mes copains ont compris qu'on parlait de Dieu et de Jésus, ils sont partis en courant. Et moi, je suis resté là. Et bingo, je suis tombé dans la marmite. Le prédicateur, missionnaire américain qui parlait français comme une vache espagnole, qui avait la passion des âmes, il pleurait après avoir prêché son message sur les personnes qui ne voulaient pas accepter Jésus. Et il m'a dit, mais tu veux accepter Jésus? J'ai dit oui. Et puis, il a prié avec moi. Et puis, à la fin de la semaine, il m'a dit, ben, on va maintenant à Blois, dans 30 kilomètres, on va évangéliser, on t'invite. À l'époque, on parlait pas des sectes et tout ça. Moi, je comprends pas comment mes parents m'ont laissé partir avec des illustres inconnus. Ils auraient pu être mafieux, terroristes et tout ce que vous voulez à la fois. Parents indignes. Bon, la bonne... Non, non, mais Dieu est grand, Dieu est grand. Mais moi, je me pince. Parce que c'est mes copains qui m'ont invité pour aller au cirque. Et voilà où j'en suis, 52 ans après. Et la grâce de Dieu, on peut pas banaliser. C'est, j'y crois pas, j'hallucine, comme disent les jeunes. Un père, c'est quelqu'un qui est prêt à m'accueillir tel que je suis, on l'a chanté. Un père, notre père qui est aux cieux, je peux m'approcher de lui en toute confiance, dans la liberté. Je sais qu'il va m'accueillir, qu'il me prend au sérieux si je lui demande pardon, etc., etc. Notre père. Et là, il faut élargir le spectre. C'est pas mon bon père céleste à moi. Parlez-moi de moi, il n'y a que moi qui m'intéresse. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent avec ce processeur. Notre père. Et là encore... dans aucune religion, vous ne trouverez cette marque d'intimité, de proximité, sans tomber pour autant dans la familiarité. Quand je prie, est-ce que j'ai conscience de m'approcher de Dieu comme un père, quelle que soit l'image du père terrestre que j'ai pu avoir? Mes prières tournent-elles autour de moi, même autour de Dieu, de ses préoccupations, autour des besoins des autres? Quelle différence ça ferait dans ma vie si je n'avais pas Dieu pour père? Dieu est le créateur de tous les hommes, mais il n'est pas le père de toutes ses créatures. Parce que la Bible dit qu'il y a des enfants du diable. Et ceux qui rejettent Dieu et Jésus-Christ, oui, ils ont été créés par Dieu, mais ils ne peuvent pas être appelés fils de Dieu, par adoption. Notre Père qui es aux cieux, suis-je en communion avec mes frères et avec mes sœurs pour pouvoir ensemble s'adresser au roi des rois, au seigneur des seigneurs, et pouvoir d'une façon solidaire, comme les doigts d'une seule main, dire notre Père. C'est profond. C'est une prière communautaire. Alors, vous l'avez compris, dans le Notre Père, Jésus n'enseigne pas, voilà, la formule magique à répéter 3 fois par jour avant chaque repas, et si ça ne va pas mieux, au bout de 15 jours, revenez me boire. Non, ce n'est pas une formule magique. Jésus nous montre l'état d'esprit qui doit nous animer. Pour employer une image tirée du milieu sportif, je dirais, Jésus nous montre comment l'essai peut être transformé. Bon, ceux qui ne sont pas fans de rugby, je vous expliquerai à la fin. Alors, je ne peux pas dire notre Père si je n'ai pas demandé pardon à Dieu pour mes péchés que j'ai commis envers lui comme à l'encontre de mon prochain. Je ne peux pas dire notre Père si je me considère comme un fils unique du Père, en rupture avec les autres membres de la famille. Vous savez, parfois, quand on pose la question aux jeunes, si tu pouvais changer 3 choses dans ta vie, qu'est-ce que tu aimerais changer? Bon, il y en a qui vont vous dire, mon look. Il y en a qui trouvent qu'ils ont le nez de Pinocchio ou les oreilles de Dumbo et ils aimeraient changer. Il y en a d'autres qui vont vous dire, moi, j'aimerais changer de famille, avoir d'autres parents, d'autres frères et sœurs. Ah ben, plaise à Dieu. Vous savez, maintenant, avec toutes les manipulations, tout ce qu'on voit, plaise à Dieu que ça ne demeure pas possible. Mais voilà. À l'église, je peux choisir à côté de qui je vais m'asseoir, mais je ne choisis pas mon frère ou ma sœur. Et en général, dans un troupeau, il y a toujours un mouton à 5 pattes. Notre Père qui est aux cieux. Donc moi je suis sur la terre et c'est nature à camper là. On joue pas dans la même cour, hein. Dieu n'est pas notre serviteur. Faut pas inverser les rôles. Et l'Ecclésiaste dit bien, quand tu pries, n'oublie pas que Dieu est au ciel et que toi t'es sur la terre, hein. L'argile ne doit pas se prendre pour le potier. À bon entendeur, salut. Toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu ou que ton nom soit sanctifié. Le nom, ça désigne la personne. La plus grande mise, enfin, un des grands mots sur la planète Terre, c'est que les êtres humains, y compris les chrétiens, se font de Dieu une image erronée, décalée, qui ne correspond pas à la réalité. Et je pense que nombre de nos pathologies en tant que chrétiens viennent du fait que nous avons une mauvaise image de Dieu qui ne correspond pas à la révélation de Dieu en Jésus-Christ dans la parole faite chair et dans la parole de Dieu, la parole faite livre. Et nous avons besoin que Dieu corrige notre vision. Et d'ailleurs, dans Ephésiens 1, Paul prie pour que Dieu illumine les chrétiens. Et dans Colossiens 1, 9 à 11, il prie pour que Dieu corrige la vision erronée de ses auditeurs. Que tu sois reconnu pour qui tu es. Le membre du royaume de Dieu, il a le souci de voir la personne de Dieu respectée, traitée telle qu'une personne de son rang le mérite. Et on ne peut pas rester insensible, indifférent, quand on voit le nom de Dieu ou sa personne mal menée, mal traitée ou blasphémée. Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous maître et seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous ordonne? Comment sanctifier le nom du Seigneur? Bien, en recherchant la sainteté dans notre vie personnelle, et l'Écriture nous exhorte à poursuivre la sainteté, en me soumettant à l'autorité de la parole de Dieu, en me laissant diriger, animé par le Saint-Esprit, pour rendre un culte, que, en esprit, en vérité, que Dieu peut approuver. Et puis, sanctifier le nom du Seigneur, c'est lui reconnaître les pleins pouvoirs. C'est lui prêter allégeance suprême. C'est renoncer à l'idolâtrie, au faux Dieu. Et c'est rechercher la gloire de Dieu. Je ne peux pas prier notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour Dieu, si je vis comme si le Seigneur n'a pas son mot à dire dans chaque domaine de ma vie personnelle. Vous savez, aujourd'hui, laïcité oblige, en Occident, on cloisonne vie privée, vie publique. Ce que je suis dans ma vie privée, ça ne regarde que moi. Ma vie publique, ça, c'est la vitrine. C'est une forme de schizophrénie que Jésus dénonce et qu'il appelle hypocrisie. Parce que sur le plan biblique, ça ne tient pas la route. Et à l'église, tout le monde peut avoir une belle cravate. D'ailleurs, je crois que je suis le seul à en avoir une ce matin. Ou une belle robe du dimanche. Mais le défi, c'est dans la vie de tous les jours. Je ne peux pas prier que tu sois reconnu pour Dieu sur la terre comme au ciel, ou que ton nom soit sanctifié, si je ne me soucie nullement de mettre ma vie personnelle en conformité avec l'enseignement des Écritures. Si je prends ce qui m'arrange et je laisse ce qui me dérange. C'est pas l'authenticité, ça, c'est de la contrefaçon. La suite. Que ton règne vienne. Alors vous avez remarqué que les premières demandes, elles tournent autour de la personne de Dieu, hein. Que ton nom, que ton règne, que ta volonté, c'est pas moi, 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 parlez-moi de moi, il n'y a que moi qui m'intéresse. Que ton règne vienne. Le roi est inséparable de son royaume. Et on ne peut pas admettre qu'il y ait d'autres rois qui soient célébrés, couronnés ou reconnus. Que ton règne vienne. L'irruption du règne de Dieu dans le monde des hommes. Ben, ça, c'est le phénomène de l'incarnation, déjà. Hein. Dieu s'est fait homme. Il est venu et il a chamboulé notre humanité. Et Dieu a son mot à dire dans chaque domaine de ma vie de tous les jours. Alors, que ton règne vienne, j'allais dire, chargement en cours. Hein. C'est comme quand vous téléchargez un logiciel. Paul dit bien, j'oublie ce qui est en arrière, je cours vers ce qui est en avant. Je n'estime pas avoir atteint la perfection, j'ai encore du progrès à faire. Je ne peux pas me reposer sur mes heures de vol, mes kilomètres au compteur, et prier pour moi que par la grâce, eh bien, ça continue et ça tienne la route. Alors je ne peux pas prier que ton règne vienne si je suis plus préoccupé par mon intérêt personnel ou mon avantage immédiat que par l'avancement du royaume de Dieu. Vous savez, quelqu'un a dit parfois, vous voulez faire... Comment faire mentir un chrétien ? Eh bien, c'est lui faire chanter un cantique dont il ne croit pas un mot, ou auquel il ne pense pas. Vous savez, il y a des cantiques qui nous condamnent. Jusqu'à la mort, je veux te suivre. Mais il faut assumer le service après-vente. Hein. Parole, parole, encore des mots, toujours des mots. Pourquoi faites-vous... dites-vous Seigneur, Seigneur, mais ne faites-vous pas ce que je vous ordonne. Je ne peux pas dire que ton règne vienne si les choses de sur la terre comme au ciel, si les choses de la terre importent davantage à mes yeux que les réalités éternelles. Et on doit prendre de la hauteur et avoir, voir entrer dans le champ de vision de Dieu. La Bible dit que notre vie est une brume, une vapeur qui paraît pour peu de temps. Et on consacre beaucoup de temps à des choses, somme toute, éphémères. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas se préoccuper de ce qu'on va manger à midi ou de quels vêtements on va habiller le petit demain matin. Bien sûr que oui, il faut anticiper. Mais si du matin au soir, il n'y a que ça dans la vie, là, il y a un problème. Je ne peux pas prier, dire que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, si je me trouve tellement bien sur la terre que je n'ai nullement envie que Jésus revienne. Moi, ça fait plus de 25 ans que je sillonne les églises en francophonie. J'ai une liste de thèmes, on avait plus d'une cinquantaine, et il y a le retour de Jésus. Et j'observe que ça, c'est un sujet qui m'a pas beaucoup été demandé. Alors, dans les années début des années 70, là, on évangélisait sur cette thématique, le fonds de commerce. C'est tout juste si à l'église, le prédicateur disait pas aux écoliers, bon, heureusement, il n'y en a pas dans la salle, c'est même pas la peine de faire vos devoirs pour lundi, parce que Jésus, il peut revenir avant la fin de mon message, hein. Vous voyez, c'était... Mais maintenant, vous savez, il y a des gens, ils se trouvent tellement bien sur la planète Terre, puis ils vous disent, non, mais attends, on va encore profiter de la vie. Un petit voyage sous les cocotiers, là-bas, là où il y a plus de soleil qu'à Dunkerque, et puis on en parlera plus tard, hein. Ah ben non. Non, je ne peux pas prier que ton règne vienne sur la Terre comme au ciel, si je n'aspire pas à ce que Jésus instaure ce règne éternel de paix et de félicité. Que ta volonté, on va un peu vite là, je crois. Il y a que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors vous savez, il y a toutes des études à faire sur le ministère des anges dans le monde invisible. Et certainement que Dieu a beaucoup plus de facilité de se faire obéir par les anges qui sont restés fidèles à son service que par les bipèdes vertébrés humains que nous sommes. Enfin, je parle pour moi, pardonnez-moi, je veux pas projeter mon problème personnel sur les autres. Bon, là, je ne m'adresse que aux descendants de Adam et de Ève, mais vous rendez compte, si nos enfants nous obéissaient au doigt et à l'œil. Non, je suis pas shooté, je sais pas quoi, mais imaginez un instant, ce serait un autre monde, hein. On n'aurait plus besoin de sortir l'artillerie lourde et de hausser le ton et de ou d'appeler Super Nanny ou je sais pas quoi. Allez, la suite. Merci Bastien. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Donc vous avez remarqué, les trois premières demandes tournent autour de la personne de Dieu. On a souvent accusé Jésus et les chrétiens. Bon, les marxistes ont bien dit que la religion c'était l'opium du peuple. Hein. L'Église disait aux masses ouvrières et laborieuses, comme disait Arlette Laguiller, souffrez dans ce monde présent, vous serez récompensés dans l'autre monde. Et la religion était l'opium du peuple qui nous endormissait. On ne peut pas accuser Jésus de cela. Il a guéri des malades, il a multiplié les pains, il s'est soucié de l'être humain dans toutes les dimensions de sa personne. Et nous qui sommes Gaulois, on est quand même sensible au fait que dans la prière du Notre Père, on peut demander du pain, du vin et du boursin. Bon, le vin, c'est, on est d'accord. Mais le pain quotidien, c'est le christianisme de Jésus. Il est à visage humain. Il garde les pieds sur terre. Moi, parfois, je rencontre des gens. Ils sont tellement spirituels. Ils pensent être dans la sixième dimension. Mais quand vous parlez avec leur femme, elle vous dit non, mais il est resté bloqué dans les nuages quelque part. Il a décollé et il n'a plus les pieds sur terre et on aimerait avoir des nouvelles du petit qui avait la coqueluche. On va savoir comment ça va, est-ce que ça va. Ah non, il vous balance des versets bibliques. Remarquez, ça fait du bien les versets bibliques, mais on aimerait quand même, on reste sur notre faim. Bon, alors je ne peux pas dire donne-nous aujourd'hui. Alors, quand le Seigneur a fait traverser les Israélites pour les faire entrer en terre promise. Bon, les spécialistes nous disent que, statistiquement et géographiquement parlant, 11 journées de marche, ça suffisait pour rentrer en terre promise. Bon, ça a duré combien de temps? On lit la même Bible. Que de méandres, hein. Alors, Dieu aurait pu dire, bon ben, au début, voilà, pour les 40 années qui viennent, je vous fais livrer vos plateaux repas, matin, midi et soir. Ah ben, dis donc. Heureusement que Dieu, il est pédagogue, hein. Donne-nous, et il nous enseigne à prier, donne-nous notre pain de ce jour. Le Seigneur veut que nous apprenions à dépendre de lui. Même si je suis DG, PDG d'une grande multinationale et que je ne sais pas quoi faire de mon argent, bon, Dieu me donne la santé, la vie et l'être et le mouvement. Je peux lui rendre grâce pour ce que je mange. Et la reconnaissance, c'est une vertu, une qualité morale, spirituelle. C'est le fruit de l'esprit, et pour les petites choses comme pour les grandes choses. Alors, je ne peux pas prier, donne-nous notre pain de ce jour, si je ne reconnais pas que la situation d'abondance qui est la mienne est l'effet de la grâce de Dieu. Dieu ne me doit rien. Est-ce que Dieu me doit la santé? Est-ce que Dieu me doit la prospérité matérielle? Je n'ai rien fait pour être né dans un pays où on nous dit qu'on a la meilleure couverture sociale au monde. Et vous savez comme moi qu'il n'y a pas besoin, vous pouvez faire 2 ou 3 heures d'avion et aller dans des pays où on peut comprendre que tout le monde a envie de venir chez nous parce que ça semble être le Pérou ou un Eldorado. Je ne peux pas prier, donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin si je ne suis pas disposé à travailler pour gagner mon pain à la sueur de mon front et à la force de mes poignets. Paul va reprocher aux Thessaloniciens qui avaient une image erronée du retour de Jésus et du corps, il leur a reproché leur paresse. Et il y a des gens qui vivaient au crochet des autres, l'assistana. Bon, ça c'est un effet secondaire indésirable de l'état de droit, c'est un autre message. Je ne peux pas prier, donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin, si je n'entretiens pas une attitude régulière de confiance, de dépendance, d'humilité et de reconnaissance. Je ne peux pas prier, donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin, si je ne suis pas conscient ni ou sensible aux besoins d'autrui. Alors bien sûr, mes moyens sont limités, même Mère Teresa, elle ne pouvait pas soulager la misère de la planète entière. Je ne peux pas prier, donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin, si je me considère seul maître à bord. Je gagne mon pain uniquement à la force de mon poignet et à la sueur de mon front. Vous vous rappelez l'histoire de Nabal, qui n'avait pas voulu partager son pain avec les fuyards, la bande de fuyards de David, et il a fallu toute la sagesse de la femme de Nabal, qui s'appelait Abigaël, et qui a évité à David de « retenez-moi, sinon je fais un malheur ». Je ne peux pas prier, donne-nous aujourd'hui notre pain dont nous avons besoin, si je ne parviens pas à faire la différence entre un besoin légitime et un désir capricieux. Et notre grand défi, nous qui vivons en Occident, en terre d'abondance, c'est de savoir faire la différence et d'enseigner à nos enfants à la faire, cette différence, entre un besoin légitime et un désir coupable capricieux. Et là, il faut beaucoup de sagesse et de discernement pour faire la différence. Parce que Dieu n'a pas promis de répondre à nos caprices, à nos lubies d'enfants parfois, mais il y a des lubies d'enfants qui durent, hein, puisqu'on nous dit que l'adolescence maintenant, ça commence de plus en plus tôt, mais ça se termine de plus en plus tard. Et parfois, vous savez, même dans la quarantaine, il y a encore des gens... Bon, c'est un autre message. Mais... je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Alors, on va voir ceux qui m'écoutent. On va voir ceux qui m'écoutent, là. C'était quoi la dernière pensée? La fête retour sur image. Merci, Raymond, d'être venu ce matin à l'église. La différence entre un désir capricieux, coupable, et un besoin légitime. Dieu a promis de répondre à nos besoins, le pain de ce jour. Maintenant, il n'a pas promis de nous livrer les plateaux repas jusqu'à ce qu'on entre en EHPAD. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Et là, Jésus, il sait... Alors, comme on a dit hier, il ne faut pas s'imaginer un instant que dans la mesure où je pardonne aux autres, je gagne des points sur ma carte. Et quand Dieu il regarde combien j'ai sur ma carte, ah ouais, ben lui là, il est obligé de me pardonner mes péchés. Non. Mais si c'est toute le sens de la parabole des 2 débiteurs, Matthieu 18, ou du débiteur impitoyable, rappelez-vous, un serviteur était redevable d'une dette incommensurable envers son maître, il était insolvable, il n'avait pas de quoi payer, et le maître lui a remis, pris de pitié, lui a remis sa dette. Un collègue du premier serviteur, à qui devait au serviteur une pécadille, une broutille, une vétille, une brindille, des centimes d'euros, on va dire, et le serviteur à qui le maître avait remis sa dette n'a rien trouvé de mieux de presser le citron jusqu'au bout et de refuser de lui remettre sa dette. Et quand le maître a entendu cela, il a dit, mais c'est pas possible. Et c'est ce que nous faisons quand nous refusons de pardonner. Nous inversons les dettes. Dieu nous a pardonné, on l'a rappelé en célébrant la Sainte Cène. Nous étions insolvables. Et nous, nous considérons, quand nous refusons de pardonner à ceux qui nous ont offensés, que les dettes dont ils se sont rendus coupables à notre égard sont infiniment plus graves et importantes que celles dont moi j'étais redevable vis-à-vis de Dieu. Et là, on inverse les dettes et on n'a rien compris. Et Jésus dit, eh bien, tant que tu n'as pas compris, moi, je ne te pardonnerai pas. C'est de la pédagogie. Alors, je ne peux pas prier, pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé, si je ne m'estime pas redevable d'une dette incommensurable envers Dieu. Je suis insolvable. Je ne peux pas prier, pardonne-nous nos torts envers toi, si je ne suis pas convaincu du fait que mon premier besoin est de recevoir le pardon de Dieu. Chaque être humain, fondamentalement, a deux besoins. Un, recevoir le pardon de Dieu pour ses péchés, et deux, offrir ce pardon, mais qualitativement de moindre qualité, on va dire, à ceux qui m'ont offensé. Et si, je pense, on entre dans la vie de couple avec ce paradigme, chaque conjoint a besoin de recevoir le pardon de Dieu pour ses lacunes, et chaque conjoint a besoin de demander pardon là où il est en faute, eh bien, le mariage risque de durer plus que 6 mois. Je ne peux pas prier, pardonne-nous nos torts envers toi, si je ne suis pas convaincu que la personne et l'œuvre de Jésus à la croix constituent la seule solution pour répondre à mon problème de culpabilité. Et le problème numéro un de chaque être humain, c'est la culpabilité. Et ça, c'est pas un problème des gens religieux, mais même le païen de chez païen, du point de vue de Dieu, il a un problème de culpabilité. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le besoin fondamental numéro un de l'être humain, c'est de trouver une réponse satisfaisante à son problème de culpabilité. Et là encore, il n'y a que dans l'évangile que nous professons où on peut trouver une solution aussi radicale, pertinente et efficace. Merci. Garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du diable. Alors je dis, cette prière, elle est globale. Dans le passé, le présent, l'avenir, Dieu, moi, mon besoin de pain quotidien et mon besoin de pardon. Et d'un point de vue psychologique, c'est très intéressant d'étudier cette prière parce que oui, du point de vue de Jésus, les deux besoins fondamentaux de l'être humain, c'est le pain et du boursin, si vous voulez, le pain quotidien, et deuxièmement, le pardon des péchés. Ça c'est. Eh bien, là il est question de l'adversaire. Délivre-moi du diable ou du malin ou du mal. C'est traduit différemment. Alors je ne peux pas prier, garde-nous de céder à la tentation, si par présomption je m'estime invulnérable ou immunisé. Non, non, mais la tentation c'est pas un problème pour moi. Je ne peux pas prier, garde-nous de céder à la tentation, si je sous-estime la gravité du péché. Ou si je minimise sa dangerosité. Je ne peux pas prier, garde-nous de céder à la tentation, si par arrogance ou désobéissance délibérée, je me complais dans le compromis. Et je ne peux pas prier, délivre-nous du diable, si je refuse de demander pardon à Dieu ou de pardonner à mon prochain. Parce que dans la mesure où je refuse de demander pardon à Dieu ou de pardonner mon prochain, j'offre une emprise à l'adversaire. Et je lui présente une poignée par laquelle il peut s'agripper, sur laquelle il peut s'agripper, et je lui donne des droits qu'il n'a pas. Je ne peux pas prier, délivre-nous du diable, si je ne suis pas conscient de mes limites, de ma vulnérabilité personnelle, de ma fragilité. Et puis cette prière, ça clôt la gerbe, et on revient au point de départ, c'est le dernier verset, voilà, ça va venir, merci Bastien. En effet, alors ça, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, ok. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. D'accord, la suite. Ah non, alors faut revenir un peu en arrière. Ouais, faut revenir en arrière, si c'est possible. Encore en arrière. Encore. Encore. Ah, voilà. Donc, c'était... Alors, c'est entrecroché parce que ça ne figure pas dans, dans tous les manuscrits. Mais voilà. Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Et donc, à la fin du Notre Père, le Seigneur nous enseigne à dire Amen. Qu'il en soit ainsi. Et ce Amen, ça, je m'arrête là-dessus et j'arrête là, mais ce Amen exprime notre solidarité collective. Nous avons dit tout à l'heure que le Notre Père, c'est une prière qui évoque la paternité de Dieu, la sainteté de sa personne, son projet, son intention dans le monde et dans l'histoire, le fait qu'il pourvoie à nos besoins légitimes, qu'il répond à notre problème de culpabilité en nous offrant le pardon qu'on est appelé à offrir à ceux qui nous ont offensés. Nous reconnaissons que tout vient de lui, tout subsiste par lui et tout revient à lui. Et puis à la fin, l'Écriture nous enseigne à dire Amen. Alors ce Amen, c'est plus qu'une simple formule conventionnelle ou liturgique. Amen souligne avec force une vérité fondamentale, affirmée massivement. Ça vient d'une racine qui signifie vérité. C'est vrai, c'est vrai, on y croit. Amen, par exemple dans Jean 3, je vous le dis en vérité, dans l'original, c'est Amen, Amen, l'ego humine. En vérité, je vous le dis. C'est fort, c'est vrai. Amen, ça exprime l'accord de l'auditeur qui donne son assentiment et son approbation à ce qu'il vient d'entendre. Et quand le frère et la sœur a exprimé sa prière à Dieu, et bien d'une façon solidaire, le peuple de Dieu répond Amen pour dire Seigneur, nous nous reconnaissons dans la prière du frère et de la sœur et on est d'accord ensemble pour te présenter cette demande. Qu'il en soit ainsi. Amen, ça représente encore une parole d'alliance qui engage. Et l'auditeur qui répond Amen, eh bien, il se voit contraint d'obéir et d'assurer la part du contrat qui lui revient, qui lui incombe. Et s'il prend Dieu au mot, eh bien, Dieu l'attend au virage, pour ainsi dire. Et toutes les implications de cette prière demandent à être validées dans la vie de tous les jours. Et puis enfin, Amen, c'est une parole qui exprime la communion avec les frères et avec les sœurs. Dans un culte communautaire où nous nous mettons ensemble à l'écoute de la voix de Dieu et d'un seul cœur, d'une même âme et d'une même voix, nous faisons monter vers Dieu notre attachement et nous lui exprimons, j'allais dire, notre spiritualité d'une manière parfaitement authentique et non pas contrefaite. En somme, Amen à la fin de notre prière, à la fin du Notre Père, exprime notre confiance que cette prière se trouvera ultimement et parfaitement exaucée quand Jésus reviendra et alors que nous l'appelons de nos voeux.